Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un peu de temps et vous ne me verrez plus, un peu de temps et vous me reverrez. Ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ ont beaucoup intrigué ses apôtres et ses disciples. Notre Seigneur fait référence d'abord à sa passion, qui est une absence pour ses apôtres, une absence de courte durée, à peine 3 jours. Bon, en réalité, depuis le vendredi saint au soir jusqu'au dimanche de Pâques au matin, il y a beaucoup moins de 3 jours. Mais ses apôtres, eux, l'ont abandonné quand même pendant ce temps-là. L'absence donc de notre Seigneur, de nouveau la présence de notre Seigneur le jour de sa résurrection, le jour de Pâques, et puis bien entendu notre Seigneur fait référence, et vous voyez qu'on a déjà cette transition vers la fête de l'Ascension qui va bientôt venir, un peu de temps, vous ne me verrez plus parce que je monte vers mon Père, donc notre Seigneur Jésus-Christ va monter au ciel dans son ascension. Donc on a ce double sentiment. Notre Seigneur, par sa présence, procure aux apôtres un sentiment de joie. Notre Seigneur, par son absence, procure un sentiment de tristesse. Et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Le temps de Pâques est un temps, bien évidemment, de joie, après la tristesse et la pénitence du carême. Mais nous voyons ici, à travers les paroles de notre Seigneur, que la joie et la tristesse ne s'excluent pas. Elles font partie, toutes les deux, de la vie spirituelle chrétienne. Et quel est l'objet de la joie? Quel est l'objet de la tristesse? C'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Quand il est présent, nous sommes, les apôtres sont dans la joie. Quand il est absent, les apôtres sont dans la tristesse. Bien entendu, il faut le voir d'une manière plus élevée, plus spirituelle, parce que de facto, nous pourrions dire que aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ n'étant plus présent sur terre, nous devrions être dans une tristesse permanente. Évidemment, cela est faux. Il faut voir la présence et l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ à des niveaux supérieurs. On peut aussi voir cette absence et cette présence de manière réelle et de manière ressentie. Vous voyez à quoi je pourrais faire allusion. Vous ayant parlé ces deux dimanches de la foi catholique, la vraie, et la foi selon Monsieur Prévost, qui se fait appeler Léon XIV, et qui est une foi proprement moderniste. Notre Seigneur Jésus-Christ est réellement présent encore aujourd'hui parmi nous. Alors, bien sûr, il y a la présence réelle de notre Seigneur dans la Sainte Eucharistie, dans le tabernacle, mais par rapport à notre vie individuelle, l'objet de notre joie, ce sera la présence de notre Seigneur en nous, dans notre âme, et finalement de la Sainte Trinité. Comment il est présent ? Eh bien, par la grâce sanctifiante. Il est présent par la foi. Et il sera présent, et nous serons présents, avec lui éternellement dans le ciel. C'est là que notre joie n'aura plus de fin. L'absence, notre Seigneur Jésus-Christ est absent. Physiquement, il est absent. On ne le voit pas comme l'ont vu les apôtres. Bien sûr, il est présent dans la Sainte Eucharistie. Je ne vais pas revenir à chaque fois sur cette réalité du Saint-Sacrement qui est une réalité bien spécifique. Notre Seigneur est vraiment présent substantiellement sous les apparences du pain et du vin. Ici, nous nous concentrons sur notre vie spirituelle, notre vie chrétienne. Notre Seigneur Jésus-Christ est effectivement absent, on ne le voit pas, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'entendre comme ont pu le voir, le toucher, l'entendre les saints apôtres. Donc il y a cette absence de notre Seigneur Jésus-Christ. Au niveau de notre âme, et l'absence de notre Seigneur, c'est l'absence, quand on le chasse, bien évidemment par le péché. Hein. Et là, il est véritablement, réellement absent. Même si certains peuvent le ressentir présent, soi-disant, il peut être réellement absent parce qu'en fait, ces personnes ne sont pas dans l'amitié de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, on voit que il y a deux niveaux, le niveau réel objectif et le niveau subjectif. Le niveau où on ressent la présence de Dieu ou pas. Il y a deux niveaux, le niveau de notre vie sur terre, où on voit notre Seigneur corporellement comme les apôtres ou pas, et puis le niveau également de la vie du ciel. Donc si aujourd'hui notre Seigneur est absent par rapport à cette vie corporelle parmi nous, il est quand même présent par sa présence réelle dans le Saint-Sacrement, par sa présence spirituelle dans nos âmes, par la grâce. De même, au cours de notre vie spirituelle, nous pouvons ressentir plus la présence de Dieu dans notre âme par des consolations spirituelles. Nous pouvons ressentir aussi l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ à travers les sécheresses spirituelles, les difficultés spirituelles. Mais à chaque fois, ce ressenti, il doit être recadré par la foi. Il doit être recadré par cette foi dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que je vous disais ces deux dimanches précédents. Donc, quel est l'objet finalement de notre joie? C'est notre Seigneur Jésus-Christ par sa présence. Quel est l'objet de notre tristesse? C'est notre Seigneur Jésus-Christ par son absence. Et ici-bas, nous sommes effectivement, tant que nous ne sommes pas au ciel, dans cette vallée de larmes, dans les difficultés, dans la tristesse, dans l'épreuve. Et il ne s'agit pas de sortir justement de cette tristesse, mais de la réorienter vers la joie du ciel, tout simplement, et de voir où est la vraie tristesse, où est le vrai malheur, c'est d'être séparé de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous amène non plus seulement à ce niveau individuel. Il faut regarder les choses au niveau social. Tristesse, joie, nous voyons que la joie chrétienne est une réalité, mais qu'elle est mesurée comme toute vertu, et qu'elle implique la tristesse chrétienne, la tristesse de ne pas être encore définitivement au ciel avec notre Seigneur Jésus-Christ, la tristesse aussi légitime de ne pas l'avoir connue comme l'ont connu les apôtres ici-bas, la tristesse de nous séparer, lorsque nous sommes séparés de notre Seigneur par le péché, eh bien, nous devons avoir cette réelle tristesse spirituelle de la contrition pour pouvoir revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque j'ai fait le parallèle au niveau de la foi avec le modernisme, nous pouvons aussi voir ce parallèle dans le modernisme avec cette question de joie et cette question de tristesse. Nous voyons notamment, moi je parle du modernisme ambiant. Bien sûr, les cadres, ils ont été bien posés par le pape Saint Pie X dans son encyclique Pascendi, dans sa condamnation du Sillon, ce mouvement soi-disant social qui était une expression pratique du modernisme. Et il se renouvelle en permanence, puisque c'est le collecteur de toutes les hérésies, comme le dit Saint Pie X, il va se renouveler en permanence. Et quelle est la traduction par rapport à la joie, par rapport à la tristesse dans le modernisme. Eh bien, puisque le modernisme est dans le ressenti, dans le sentiment religieux, il s'agit de vivre en quelque sorte le Christ. Eh bien, ils vont insister sur cette joie d'être chrétien, sur cette joie de savoir, c'est pas la foi, de savoir que Christ, je vais parler comme eux, est notre sauveur personnel, que Christ est ressuscité, qu'il aime chacun d'entre nous. C'était toute la propagande qu'ont fait notamment les séminaristes du diocèse de Paris juste avant les rameaux, qui n'est rien d'autre qu'une propagande protestante en fait, parce qu'ils n'annoncent pas la foi, ils n'annoncent pas la nécessité de se convertir, c'est-à-dire de regretter des péchés, des fautes, de les reconnaître. Il n'annonce pas la tristesse nécessaire par rapport à cela. Non, tout est joie, tout est célébration, on met des musiques modernes, etc. La même réalité se retrouve dans la liturgie moderne, si on ose appeler ça une liturgie, bien sûr. On va appeler ça une liturgie dans le sens vraiment étymologique du terme, dans ce sens étymologique qui est une espèce de célébration de la communauté, des prières, entre guillemets, là aussi, des prières, du moins un rassemblement de la communauté. Pourquoi ? Pour la louange divine, c'est ce qu'ils vont nous dire. C'est ce que nous avons chanté au début de cette belle messe, Jubilate, qui n'est pas simplement « soyez dans la joie, réjouissez-vous ». Jubilate, c'est jubilé, donc c'est tressailler d'allégresse. Donc eux, ils pensent que tout cela, il faut le faire passer dans la liturgie, et donc il faut que tout le monde bouge, il faut qu'on danse, il faut des tam-tam, il faut ceci ou cela, parce que cela permet d'exalter ce sentiment de joie. Sauf que la tristesse est évacuée. Sauf que c'est un phénomène qui est proprement moderne et qui a déjà été pointé du doigt, même par des laïcs. Un écrivain, Philippe Muret, un Français donc, a inventé ce néologisme, ce terme de festivisme. Il parlait d'homo festivus, l'homme festif. En résumé, si vous voulez, le festivisme désigne une logique sociale de fête permanente, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Tout devient événement, célébration, animation. Il y a une espèce d'injonction générale à l'enthousiasme. Il faut parler comme ça pour montrer qu'on est enthousiaste, qu'on y croit, que c'est beau, que Jésus nous aime, etc. Ça marche. Vous êtes joyeux, vous riez, vous voyez. C'est ça, le festivisme. Vous ressentez l'amour de Christ. Il faut être de la fête. Et bien sûr, ça va dissoudre le tragique, la limite, le sérieux au profit de cette espèce de mise en scène collective de la joie. On passe son temps à faire des festivals, des célébrations, des carnavals, etc., etc. Et puis, pour se concentrer sur la liturgie moderne, eh bien, pour tous ceux qui peuvent regarder, et il vaut mieux la regarder de loin plutôt que de près, on a cette exaltation finalement d'un sentiment religieux, de joie. C'est pour ça que sont très dynamiques ces fameuses nouvelles communautés, n'est-ce pas, qui paraissent toujours joyeuses. Mais est-ce que c'est une vraie joie qui vient de la foi ? Est-ce que c'est une vraie joie qui vient d'une vraie foi ? Parce que la vraie foi, ce n'est pas d'avoir le sentiment ou la conviction que Christ nous a tous sauvés sans qu'il n'exige rien de notre part. La vraie joie elle nous rappelle que ici-bas, nous ne pouvons être dans la joie parfaite. C'est ce que dit notre Seigneur. C'est ce que dit également l'apôtre saint Pierre, donc le premier pape, dans cette belle lettre, cette belle épître. Il commence par nous rappeler que nous sommes ici-bas des étrangers et des pèlerins. Nous ne sommes pas chez nous. Et non. Notre patrie, ce n'est pas la terre. Notre patrie réelle, permanente, n'est pas terrestre. Nous sommes en exil. Nous sommes comme des pèlerins. Donc il y a ce sentiment réel et normal de tristesse. Même si nous appartenons à notre Seigneur Jésus-Christ, nous savons que par le péché, nous pouvons le perdre. Donc, dans le modernisme, il va falloir exalter ce sentiment religieux. La nouvelle liturgie, c'est l'expression d'une nouvelle religion. La nouvelle liturgie, c'est l'expression d'une nouvelle foi. Alors, cette nouvelle foi, elle est exprimée de façon très théorique et parfois de manière très ambiguë par Vatican II. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambiguïté par rapport à la manière de comprendre Vatican II. Il n'y a plus aucune ambiguïté parce que nous avons vu depuis Paul VI et ses successeurs comment Vatican II est interprété, comment il faut comprendre ces principes, comment il faut comprendre la nouvelle liturgie. Elle correspond à cela, cette volonté de célébrer Dieu, de célébrer son amour, d'exalter le sentiment d'appartenance communautaire et de joie commune dans le Christ. De quelle manière? Eh bien, de manière très participative. Il faut que tout le monde puisse bouger, que tout le monde puisse chanter, que tout le monde puisse comprendre ce qui est dit et ce qui est fait à la messe. Il faut s'adapter aux musiques modernes, etc. Ou s'adapter aux musiques de chaque pays. Et non. Mais voyez que cela est tout un ensemble et qu'on a vraiment une traduction dans le chrétien moderne de l'homo festivus. Mais l'homo festivus, il est vide, malheureusement. C'est une joie qui passe parce qu'elle n'est pas véritablement fondée. Notre liturgie, bien sûr, par ces gens-là, va être dénigrée. Elle va être dénigrée comme élitiste. On parle latin, comme aseptisée. On est considéré, elle n'est pas assez festive, pas assez participative, trop sérieuse, engoncée. On ne bouge pas, on ne danse pas, on ne tape pas des mains. Non! Il y a ce sérieux, et ce sérieux qui est le sérieux de 2000 ans, en fait, de vie chrétienne. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que c'est la liturgie catholique, et elle doit s'exprimer de manière sérieuse. Donc, nous avons un constat, ce constat, bien sûr, d'une déviation grave au niveau de la foi vers le sentiment religieux, et avec toutes les conséquences, une déviation par rapport à la véritable, au véritable sens de la vie chrétienne. Et cela s'exprime à travers des éléments particuliers, comme la question de la joie et la question de la tristesse. On va fuir la tristesse, on va fuir la pénitence. Il faut impérativement supprimer tout langage qui peut paraître de près ou de loin négatif. Ça participe de la même mentalité, parce que tout langage ou toute discipline, comme la pénitence, qui peut paraître négatif, eh bien, tout cela va amener à la tristesse, va amener à faire un retour sur soi, va amener à une vie plus sérieuse dans laquelle va se trouver l'ascèse chrétienne. Donc, les remèdes à cela, c'est le véritable esprit chrétien. Bien sûr, nous connaissons tous l'adage « Un saint triste est un triste saint ». Nous savons que le chrétien est nécessairement joyeux. Mais sa joie, ce n'est pas cette joie du monde, cette joie festive, voire, je dirais même, festiviste. Cette injonction permanente à l'enthousiasme, à la joie pour échapper aux tristesses de ce monde. Bien sûr, il y a beaucoup de contradictions, on ne va pas rentrer dans tous les détails, hein, puisque l'homme moderne est extrêmement anxieux, etc. Mais parce que aussi, il manque de foi, justement. Et il a une vision qui est une vision très terre-à-terre. Donc les remèdes, c'est vraiment la véritable foi, la véritable joie. Mais le remède particulier à cette fausse joie, c'est vraiment le sérieux de la vie chrétienne. Et en ce sens, la liturgie catholique, la vraie liturgie, nous amène à ce sérieux. La vraie liturgie, elle est parfaitement cadrée. Il y a une manière de se tenir pour le prêtre, pour les servants de messe, pour les fidèles. Cette manière de se tenir, elle va découler effectivement aussi de l'ambiance qui est mise. On est tous tournés vers le bon Dieu, vers la croix, vers le tabernacle, vers l'autel, vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important, cette orientation, justement. On n'est pas tourné les uns vers les autres, on n'est pas tourné sur soi. La joie, elle est exprimée, mais elle est exprimée sobrement. Elle est exprimée dans les chants. Alors les chants qui sont réservés à la chorale, parce que ce sont des chants qui se sont développés. Mais pour le bon fidèle qui suit, qui écoute, qui lit aussi sur son missel, qu'est-ce qu'on est, les paroles qu'on est en train de chanter, « Jubilate Deo Omnis Terra », on a cette joie qui transparaît même dans la mélodie. Mais ce n'est pas une mélodie qui va favoriser le sentiment, justement. C'est une mélodie qui va coller vraiment à ce texte latin et à la réalité qu'il y a derrière. On ressent, si j'ose dire, dans la mélodie grégorienne, ce sérieux, justement, de la joie chrétienne. On ressent dans les Alléluia qui sont chantés, ce sérieux de la joie chrétienne. Reprenez également le deuxième Alléluia d'aujourd'hui, « Oportebat pati Christum ». Il importait que le Christ souffrit et ressuscita d'entre les morts. Là, on a le chant de l'Alléluia, effectivement, mais on a ce côté qui est plus intérieur et qui a ce rappel triste, effectivement, de la passion « Oportebat pati Christum ». Le vrai chrétien, il a des sentiments. Il a des sentiments de joie, il a des sentiments de tristesse également. Mais cette joie et cette tristesse, et elles ont pour objet les réalités de la foi. Elles ne sont pas centrées à eux-mêmes. Quand on dit aux gens, si on essaie de convertir les gens en leur disant « Sois joyeux parce que Christ est ton sauveur personnel », oui, ça les fera peut-être sortir de la morosité ambiance, du vide existentiel, de leur pauvre vie en dehors de la foi. Mais quelle foi ? remplacer ce vide existentiel par une espèce de joie qui n'a pas un fondement solide, c'est tromper les gens. Et une fois que ce sentiment qui peut exister dans ce cadre festif va partir, qu'est-ce qui va rester ? À la première difficulté dans la vie, à la première épreuve, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils ont le sens du péché ? Est-ce qu'ils ont le sens de la pénitence ? Est-ce qu'ils ont le sens de l'ascèse chrétienne, de la nécessité des efforts dans la vie spirituelle ? D'accepter les difficultés de la vie, non pas en se disant hein, « Christ nous a sauvés, on peut faire n'importe quoi, toute façon on ira tous au paradis ». Non, ça c'est tromper les gens. On ira au paradis si on passe, comme notre Seigneur Jésus-Christ, comme le disait encore saint Pierre, si on suit ses pas, si on suit ses traces. Celui qui veut être mon disciple, qu'il se renonce à lui-même, tristesse, qu'il prenne sa croix, tristesse, et qu'il me suive. Il me suive ici dans la passion. La joie, elle vient après. Donc les remèdes à cela, c'est le sérieux de notre vie chrétienne. C'est l'esprit de silence. C'est important, là aussi, de cultiver cet esprit de silence. Combien, même parmi les chrétiens, ne supportent pas le silence, passent leur vie avec des écouteurs sur les oreilles, ou la radio, ou je ne sais trop quoi, dans la voiture. Un peu de silence, ça fait du bien. Le silence auditif, le silence visuel également. S'abreuver tout le temps d'images sur les ordinateurs, les téléphones, etc. C'est contre aussi l'esprit de silence. Attention. La vraie prière, l'ascèse chrétienne, comme je vous ai dit, donc la pénitence, l'attention à ces jours de pénitence qui sont peu de choses maintenant en dehors du carême avec ces jours d'abstinence. Et évidemment, la vraie joie. La joie d'être et de se maintenir avec l'aide de Dieu dans la grâce sanctifiante. Voilà où est la vraie joie. Elle n'est pas ici-bas, elle n'est pas sur terre. Donc, ne rentrons pas, parce que derrière cela, il y a toujours la même réalité. La réalité dialectique, le jeu d'opposition, la joie, la tristesse. Si on est joyeux, on ne peut pas être triste. Si on est triste, on ne peut pas être joyeux. Eh bien si, on peut être les deux à la fois, mais pas sur le même niveau. La vie chrétienne, et on insiste là-dessus, est une vie ordonnée. La vie chrétienne est une vie joyeuse, mais d'une joie contenue. D'une joie sérieuse, d'une joie qui n'est pas exaltée, d'une joie qui a de la tenue, qui a de la dignité. Pas une joie moderne, excitée, sautillante, que sais-je. Il faut opposer à cette vision une vision ordonnée. Le chrétien est joyeux et il est en même temps triste. Il n'est pas triste de ce désespoir, de ce vide moderne, des gens qui ne voient aucun sens à leur vie. La vraie tristesse, c'est la tristesse de ne pas être encore au ciel, de ne pas avoir vu notre Seigneur Jésus-Christ. La vraie tristesse, c'est celle aussi qui doit découler de notre état de péché. Soit parce que nous avons été dans cet état de péché, séparés réellement de Dieu, soit que c'est une possibilité, donc nous devons être dans la crainte et dans le tremblement lorsque nous faisons notre salut, soit malheureusement cette tristesse, parce que effectivement nous ne sommes pas dans la grâce sanctifiante, et à ce moment-là, il faut aller bien sûr vers le sacrement de pénitence, Et là, on voit souvent la vraie joie des pénitents, justement, après avoir reçu l'absolution, cette vraie joie d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ et d'avoir notre Seigneur Jésus-Christ avec lui. Donc, demandons aujourd'hui à notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, de cultiver cette vraie joie et de cultiver cette vraie tristesse chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.